Pour notre émission portant sur les acteurs de changement, nous avons la chance d'être en présence de Steven Guilbeault, membre fondateur et directeur principal d'Équiterre qui s'intéresse aux questions environnementales et particulièrement au dossier des changements climatiques. Bonjour, M. Guilbeault.
Bonjour.
Alors, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de comment tout ça, ça a commencé.
Je viens d'une petite ville en Mauricie qui s'appelle Latuque. Et quand j'étais petit, derrière la cour, c'était la forêt. Ça a été mon terrain de jeu pendant des années, jusqu'à ce que des développeurs viennent pour couper cette forêt-là, pour faire un nouveau développement immobilier. Là, je suis entré dans la maison un peu en état de panique. Puis ma mère a dit, puis elle n'est pas militante pour deux scènes, mais elle a dit, si tu grimpes dans un arbre, celui-là, ils ne pourront pas le couper. Alors, j'avais 5 ans, je jouais dans la forêt à longueur de journée. Grimper dans un arbre, c'était mon pain puis mon beurre. Alors, j'ai fait comme ma mère m'a dit. Je suis monté, je suis resté là toute la journée. Je ne pouvais pas venir me chercher, c'était trop compliqué, c'était trop dangereux. Alors, cette journée-là, cet arbre-là, ils ne l'ont pas coupé. Ça m'a pris des années à réaliser que cet événement-là a eu beaucoup d'impact sur ma vie. C'était une prise de conscience, mais qu'on ne réalise pas à 5 ans, on ne réalise pas à 10. Peut-être à 15, 16, on commence à prendre conscience. Donc, autour des années 92, je rencontre des gens avec qui, plus tard, on va fonder Équiterre. Sidney Ribault, qui en est maintenant directeur général. François Meloche, qui est aujourd'hui un expert québécois en matière d'investissement éthique. Patrick Henn, qui travaille dans l'éolien. Laure Varidel, évidemment. Donc, plein de gens comme ça avec qui on a beaucoup d'atomes crochus, puis on veut changer le monde. On est des jeunes universitaires. On est plein d'espoir, plein d'énergie. Alors, on décide de créer Équiterre.
Est-ce que vous voulez me parler un peu de cette époque-là? Comment ça se passait au niveau politique, environnemental, pour avoir une petite idée? Dans quel contexte, en fait, Équiterre est né?
Bien, on est... Équiterre, on est un peu des enfants du sommet de Rio de 1992, donc qui était à l'époque la plus grande conférence en environnement qu'il y avait jamais eu. Il y avait des chefs d'État à une conférence sur l'environnement, ça s'était jamais vu. Et c'est à Rio qu'il y a plusieurs grandes ententes internationales qui sont signées, celle pour la protection de la biodiversité, celle pour contrer la désertification et celle sur les changements climatiques. Et rapidement, chez Équiterre, au début, la question des changements climatiques va devenir pour nous un enjeu prioritaire. Mais à l'époque, on parlait jamais autant de changements climatiques qu'on en parle aujourd'hui. Et le consensus scientifique n'était pas là. Alors, quand nous, on parlait de changements climatiques, à l'époque, on passait pour des extraterrestres. Il y avait déjà des études, il y avait déjà plusieurs scientifiques qui avaient sonné l'alarme, mais c'est vraiment en 1995 que le groupe de scientifiques des Nations Unies publie un premier rapport où là, la communauté scientifique internationale dit « il y a un réchauffement, c'est largement dû à l'activité humaine ». Et là maintenant, je veux dire, c'est acquis, là. Il y a à peu près plus de débats sur le fait scientifique du réchauffement planétaire. Il y a les négationnistes du climat là, qu'on entend, entre autres, qui sévissent dans les radios poubelles, mais c'est très marginal. La classe politique sur la question des changements climatiques, il n'y a pas de débat sur est-ce qu'on doit le faire. Il y a des débats sur la façon puis les mécanismes, mais pas sur l'importance d'agir. Alors, je pense qu'il va falloir être vigilant. Je pense qu'il va falloir demeurer mobilisé. Quand on regarde les grands mouvements sociaux, Martin Luther King, Malcolm X, ce qui s'est passé en Inde avec Gandhi, il y a parfois des grands moments, il y a parfois des grandes personnalités qui vont émerger. Mais ces changements-là, c'est le fait de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes qui vont poser des petits gestes. Puis, devant des grands problèmes sociaux ou environnementaux, on peut dire, mon Dieu, un petit geste, ça donne quoi? Mais il ne faut jamais perdre de vue que vous n'êtes jamais seul à le faire. On voit présentement une prise de conscience puis une mobilisation planétaire. Alors peut-être que ça peut avoir l'air un petit peu insignifiant à l'échelle d'un individu, d'une personne, mais ces petits gestes-là, reproduits des centaines de milliers, voire des millions de fois, ça finit par devenir une force politique, beaucoup plus que les grandes conférences internationales comme celle qui s'en vient à Paris, celle de Kyoto, qui ont leur importance. J'ai participé à ces conférences-là, je serai à Paris au mois de décembre, mais ce qui fait que la planète avance dans le cadre de la lutte au changement climatique, c'est la mobilisation, c'est les gens dans leur communauté, dans leur ville, dans leur province, qui ont amené, qui ont convaincu leurs élus à agir, qui ont convaincu des entreprises à faire mieux. C'est très, très, très important.
Est-ce que vous avez un mot de la fin?
Je suis plutôt optimiste quant à la suite des choses. Pas un optimiste gaga, lunettes roses, tout va bien aller. Certains optimistes réalistes, je dirais, dans la mesure où, comme je le disais, il y a une mobilisation fantastique. Moi, je suis beaucoup plus optimiste aujourd'hui que je l'étais il y a 10 ans ou il y a 20 ans quand on a commencé à travailler là-dessus, puis qu'on ramait à contre-courant tout le temps, puis qu'il n'y a à peu près personne qui croyait à ce qu'on disait. Alors que là, maintenant, il y a une marche qui est donnée, il y a un sens, il y a une action mondiale. Bloomberg publie un rapport au mois de mars qui montre que d'ici 2030, on va investir la moitié de l'argent qu'on investit dans les combustibles fossiles par rapport à aujourd'hui et deux fois plus dans les énergies renouvelables. Le monde des transports est en train de changer. Comment on fait nos bâtiments? Vous êtes ici, CIBL, dans un bâtiment très moderne, très efficace. Nous le sommes, nous aussi, juste à côté, dans la Maison du développement durable. On a voulu faire ces bâtiments-là pour montrer à tout le monde, à nos élus, aux constructeurs, aux ingénieurs, aux architectes, aux gestionnaires d'immeubles, qu'on pouvait faire beaucoup mieux et ça marche. Et je pense que toutes ces initiatives-là, elles vont avoir un effet de contamination et on va vivre des transformations vraiment intéressantes et vraiment positives. Parallèlement à ça, par contre, et c'est là le volet réalisme de mon optimisme, nous sommes déjà entrés dans l'ère des changements climatiques. Mmh. Il y a déjà des impacts, il y a des gens qui souffrent, il y en a encore d'autres qui vont souffrir. Hélas, avant d'aller mieux en matière de lutte au changement climatique, avant que le climat se remette de ce qu'on lui a fait subir, ça va prendre du temps. Et plus on agit rapidement pour contrer ça, plus on va pouvoir régler rapidement ce problème-là, moins on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, une planète en mauvaise santé. Alors, je crois fondamentalement qu'on peut y arriver, mais il va falloir continuer à travailler. Mais si on le fait tout le monde ensemble, je suis convaincu qu'on va y arriver.